existant en Israël, qui est celui de gauche, je dois vous dire qu'il est aussi à la base de la construction du Beit HaTfutzot, du musée de la diaspora de Tel Aviv. Et ce sont des gens de gauche qui l'ont construit. Et on s'attendrait plutôt à voir des gens de la tradition, puisque le musée essaye à tenter de recréer un lien entre le juif du présent, de l'actualité, avec son passé, avec son patrimoine. Au début du mouvement sioniste, le sionisme de gauche se définissait par une négation de la diaspora, ce qu'on appelle Shlilat HaGalut, par une coupure avec le judaïsme traditionnel qui était entièrement assimilé à cet exil, à cette diaspora, par une volonté de créer une structure étatique socialiste, et enfin, et peut-être au-dessus de tout, par la volonté de créer un modèle étatique qui servirait aux autres nations, et en cela rejoignait cet universalisme. Et si la première génération des sionistes socialistes en Israël pouvait se couper du reste du monde juif, il n'y avait pas tellement de problèmes, parce que finalement, elle portait ce monde juif en elle-même, dans son essence. Cette première génération était issue de cette culture. Il l'avait absorbée, il l'avait digérée, il la vivait. N'oubliez pas que le mot kibbutz est un mot d'origine chassidique. Le kibbutz chassidi. Le kibbutz a été en grande partie, aujourd'hui un certain nombre d'études ont été faites sur ce sujet, a été en grande partie constitué sur le modèle de ces sociétés chassidiques qui étaient très souvent collectivistes et même communisantes. Eh bien, la génération d'aujourd'hui, elle, est complètement coupée, ou était jusqu'il y a très récemment, complètement coupée de cette connaissance que les premiers pionniers avaient reçue de leurs parents et du milieu dans lequel ils vivaient. Cette génération était vide de contenu, vide d'identité. En Israël, aujourd'hui, l'un des grands problèmes qui se pose, et on a créé des structures pour cela, sont situées autour de la problématique de l'identité juive. Combien de fois ai-je l'occasion d'entendre ce genre de propos ? Je me sens plus proche du druze avec lequel je combats qu'avec le juif de Mea Shearim qui ne fait pas l'armée, ou avec le juif de Paris ou de Los Angeles qui regarde les événements de loin, même s'il les approuve. Et en cela, je n'ai plus aucun lien avec le fait juif. Je suis israélien, et par le fait que je suis né ici, se crée une sorte de culture. La crise affrontée par ce sionisme de gauche a commencé dans les années 50. Très souvent, dans une large mesure, ce sionisme de gauche soutenait ou le stalinisme, ou avait des tendances communisantes, ou socialisantes, mais vraiment très très à gauche. Et avec la dénonciation de Staline au 20e congrès du Parti communiste en 1956, ce mouvement s'est retrouvé sans fil conducteur. Que faire ? Ensuite, Et un autre élément à jouer dans un sens favorable et défavorable à la fois, c'est la Shoah, l'Holocauste. À savoir, comment pouvions-nous nous mesurer à cet événement? La première réaction a été de se démarquer de cela. Finalement, tous les gens qui avaient vécu l'Holocauste, la Shoah, étaient ou des lâches ou des gens sans réaction. Et ce que les écoles d'Israël pouvaient rappeler, c'était uniquement le soulèvement du ghetto de Varsovie et rien d'autre. On ne parlait ni des ghettos, ni d'Auschwitz, ni de cette volonté de survie existant parmi les rescapés de l'Holocauste. Et combien sont ces témoins qui aujourd'hui viennent et disent, quand je suis arrivé en Israël et que j'ai commencé à raconter, personne ne voulait m'écouter. Laisse-nous tranquilles avec tes histoires. Donc, une problématique très importante, comment concevoir la Shoah? Et enfin, une certaine remise en question de l'esprit pionnier, le kibboutz évoluant, devenant à son tour société bourgeoise ou néo-bourgeoise, ou sinon bourgeoise, du moins avec un niveau de vie que la plupart des Israéliens n'ont pas. Et ces situations ont été analysées dans les 10-15 dernières années par un certain nombre de penseurs israéliens tels que Uriel Tal, Feu Uriel Tal, professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, ou Yehuda Bauer, professeur d'histoire de la Shoah à l'université de Jérusalem. Par des gens comme Eli Bengal, que vous connaissez sûrement, puisqu'il est d'origine française, et prise de conscience de cette situation qui, finalement, ne permettait plus à ce juif israélien de s'identifier avec sa culture, avec son passé, et qui ne permettait plus de justifier son présent, et nous allons le voir dans un petit moment. Il y a un autre phénomène qui est extrêmement important à ce niveau-là, c'est l'existence de facto d'une culture juive laïque dans ces sociétés. À savoir que Pessah, par la fête de Pessah, n'était plus fêtée selon les normes de la tradition, mais en fonction d'un nouveau cérémonial organisé dans le cadre du kibboutz, mais qui n'était pas ou de la société. De certaines sociétés, de certains groupes à l'intérieur des villes, mais qui n'avaient pas forcément un rapport avec le passé. Depuis quelques années, un phénomène aussi est venu troubler cette paix toute relative existant dans ces communautés, à savoir le développement du mouvement de la réforme en Israël. Et la réforme n'avait jamais eu grande prise sur la société israélienne. Or, depuis quelques années, nous voyons des institutions réformées s'installer en Israël avec force, établir des communautés et rallier beaucoup d'Israéliens. Et pour ces sionistes socialistes, se poser cette question, à savoir, doit-on se rallier à cette réforme? Et cette réforme avait un côté trop establishment tout de même, et trop bourgeois dans la conception. Et par conséquent, ils ont continué à s'en démarquer. Et puis, depuis une dizaine d'années, en Israël, oui, vous devez le savoir sûrement par les médias, il y a une offensive de ce qu'on appelle l'ultra-orthodoxie. Cette offensive, que l'on qualifie de fanatisme ici, est en réalité une ouverture sur le fait israélien. sur l'intérêt, tout en ayant des aspects extérieurs extrêmement repoussants. D'un autre côté, il y a dans cette société ultra-orthodoxe un intérêt pour cette société israélienne, à savoir qu'il faut créer un État ou amener cet État à respecter la halakha, la loi juive, y compris par la force. Et voilà cette grande menace, donc, pour ce mouvement socialiste, sioniste, opposé à cette tradition qui avait brisé le lien avec ce monde ghettoisé qu'il ne voulait plus. Et voilà que ce monde du ghetto ressurgit dangereusement pour eux. Et enfin, le dernier grand problème, celui qui obsède les télévisions et les journaux du monde entier, beaucoup plus que le milliard de Chinois existants, à savoir les Arabes d'Israël. Et voilà que ces gens qui espéraient créer une société de fraternité avec le monde arabe constatent l'échec de leur relation avec ce monde arabe. Ils n'ont pas réussi à créer une fraternité de travailleurs comme ils espéraient. C'est l'échec. Comment réagir face à cela? Eh bien, c'est par un retour aux sources, par un retour au judaïsme que tout cela se fait, pour essayer de redonner une conscience juive à toutes ces masses vidées de contenu que certains qualifient de judaïsme du nettoyage de la voiture le jour de Shabbat. Et les principaux dirigeants du mouvement sioniste socialiste essayent aujourd'hui de retrouver le judaïsme. Mais attention, il s'agit d'un judaïsme sans Dieu. Comme le dit Yehuda Bauer, respectons les mitzvot, mais nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous indiquer quels sont ces mitzvot, quels sont ces commandements. Et ce judaïsme se situe autour, bien sûr, essentiellement du kibbutz arzi, c'est-à-dire du mouvement Mapam, et à la suite de quoi, mais d'une manière beaucoup plus lente, le Takam, le kibbutz socialiste plus modéré, suit le mouvement, mais d'une manière très différente et surtout sans prendre d'initiative, sans être créatif. Il y a un grand centre aujourd'hui qui développe ces théories, c'est Oranim, à côté de Haïfa, centre qui n'est pas un centre universitaire à proprement dit, qui est une espèce de collège de style américain, et dans lequel circulent des penseurs très nombreux qui essayent de développer toute une théorie, toute une idéologie juive qui retrouve sa source dans les textes antiques, à savoir, à la base, la Bible et le Talmud. Il s'agit de faire la symbiose entre une culture générale et le judaïsme. Il s'agit de remplacer Dieu par l'homme, et en cela, nous retrouvons la fonction de l'universalisme. Il s'agit donc de l'homme qui est porteur de culture, de l'homme qui porte cette culture en gestation, c'est-à-dire dans une dynamique créative aujourd'hui. Et le tout fondé sur un pluralisme qui permettrait d'y intégrer tous les juifs, y compris les minorités, locale, les Arabes, qui trouveraient leur place dans cette société. Non pas dans le judaïsme, bien sûr, mais dans cette société retrouvant son judaïsme. Et ces groupes cherchent un cérémonial, cherchent une nouvelle fonction du geste qui serait fondée sur une modernité. Je me rappelle que très récemment, je lisais dans une revue d'un de ces mouvements kibboutziques, Shdemot, une proposition d'une nouvelle cérémonie de mariage juif. Comment faire un nouveau mariage juif ? Il s'agissait de supprimer tout d'abord le rabbin, un membre du kibboutz, en général le dirigeant du moment du kibboutz mariant l'homme et la femme, une ktouba, un acte de mariage en hébreu moderne, et la suppression de toute prière. Il est à noter tout de même, fait très curieux, que lors du décès de Abba Kovner, Abba Kovner était l'un des grands héros de cette Lituanie, de Vilna et de la région de Vilna, qui a lutté contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'un des grands penseurs du kibbutz Mapam en Israël. Abba Kovner, lors de son décès, a laissé en testament l'obligation à son fils de dire le Kaddish. C'est le seul texte qui a été dit sur la tombe d'Abba Kovner, et en cela créant un certain cérémonial extrêmement limité, mais qui correspond à une certaine modernité dans la conception de ces différentes tendances. Donc, refondement de toutes les mitzvot, de tous les commandements, finalement, recréer un cadre sociologique permettant de donner au judaïsme une forme qui permette aux nouvelles générations de se maintenir. Et je voudrais, si vous permettez, analyser un petit peu ces nouvelles formes qui prennent cours actuellement en Israël et qui ont sans conteste un grand succès. Un grand succès puisque on a pu construire Beit HaTfutzot sur cette base. Beit HaTfutzot, où très curieusement, des juifs provenant de toutes les tendances viennent. Vous avez des ultra-orthodoxes anti-sionistes comme des chassidim de Satmar qui viennent visiter le musée et des juifs complètement assimilés. En réalité, le musée a été constitué pour ces juifs vidés de leur contenu et absolument pas pour l'orthodoxie. Pour répondre à ce besoin dont nous parlions de retrouver un patrimoine. Or, ici, nous avons quelque chose de tout nouveau dans cette fascination universaliste. Nous avons quelque chose de tout nouveau parce que le schéma traditionnel dont je vous parlais précédemment, à savoir que la recherche de l'universalisme entraîner le refus du judaïsme et ce refus du judaïsme recréer une certaine judéité. Ici, cette fonction, ce schéma s'est complètement transformé. On a affaire à quelque chose de tout nouveau. De tout nouveau dans la mesure où la recherche de cet universalisme se traduit par une recherche du judaïsme. Nous revenons à notre rabbin du début, à notre rabbi chassidique qui recherchait sa personne pour essayer de découvrir le monde finalement. Et c'est ça, c'est une démarche purement juive que nous avons là, que nous retrouvons là, et qui en ce sens me semble extrêmement positive. Il existe cependant une certaine problématique par rapport à ce développement, à savoir qu'il existe rupture. Il existe une rupture entre le passé et le présent. Ce cadre de modernité qu'ils essayent de reconstituer est en réalité coupé de la continuité. Le judaïsme, dans sa fonction de halakha, de loi, est lié à la casuistique, n'est-ce pas? On étudie les précédents. On se fonde sur ce qui existait au préalable. Or là, il n'y a pas cette recherche. Bien que s'appuyant sur les textes anciens, il y a rupture par rapport aux textes anciens. C'est-à-dire qu'on les étudie, on les reprend, mais sans essayer de les percevoir dans une dynamique moderne. On casse ce mouvement juif qui perdure au travers de 4000 ans d'histoire. Et en cela, il y a une certaine faiblesse. Peut-être que les penseurs des générations à venir réussiront à relier ce judaïsme de la tradition et ce judaïsme de la modernité, mais pour l'instant, nous en sommes encore très très loin. Ce qui est sûr, ce qui est certain et ce qui est pour moi extrêmement positif, c'est que aujourd'hui, Elie Bengal trouve un langage commun avec le Rav Shach. Le Rav Shach étant l'un des grands responsables de l'Agoudat Israël en Israël, parti de l'orthodoxie qui accompagne le sionisme sans être sioniste. Mais il y a à nouveau possibilité de dialogue. Et ceci est important car ce dialogue avait cessé. Je vous remercie.
Y a-t-il des questions dans la salle?
Tu vas peut-être m'aider à comprendre une chose qu'il nous a dit ici, hein, tu vas peut-être m'aider à comprendre une chose qu'il nous a dit un soir ici, Elie Bengal, il y a 1 ou 2 ans environ. Il avait dit, et ça m'avait beaucoup étonné, que certains mouvements extrémistes actuels en Israël, parmi lesquels il rangeait le Gush Emunim, étaient des gens qui descendaient en ligne directe, et j'étais intervenu sur ça, bien sûr, pour lui demander de préciser et de nuancer au moins, descendaient en ligne directe du Rav Kook. Qu'en penses-tu? Comment Elie Bengal a pu être amené à dire quelque chose d'aussi massif, d'aussi brutal? Ici, dans Rachi, en bas, dans la grande salle.
Il a dit la vérité.
Or, je croyais que le Rav Kook, d'après le peu que j'ai compris, avait essayé de jeter un cri d'alarme modérateur depuis les tout débuts pour unifier sionisme politique et sionisme religieux, dont tu as parlé sans arrêt ce soir. Alors ça me paraissait être un élément conciliateur. Alors qu'Elie Bengal nous le présentait comme un homme qui avait initié les pires extrémistes. Il n'allait pas jusqu'à Kahana ou au rabbin Meir Kahan, mais au Gush Emunim. Alors j'ai pas compris.
J'avoue que je ne comprends pas la portée de la question. Mais il y a ici un problème de sociologie israélienne qui voudrait éclaircir, si tu peux le définir.
Très récemment,
Peut-être en éclairant aussi, ou alors je posais la question autrement tout à l'heure, c'est peut-être ce qui explique cette réaction de M. Lanzer. C'est que ce lien entre la tendance Mapam et le Rav Shach de Nebrak, Goudat Israël, non pas à mon sens, alors tu éclaireras pas à l'aile aussi mise, mais violemment posée, est un peu l'envers de la question de monsieur.
Et on répond maintenant ou on...
Comme tu préfères.
Bien. Alors, très récemment, Elie Mengal nous disait « Je peux parler avec le Rav Shach, je peux parler avec Satmar, je peux parler avec toute l'orthodoxie, mais je ne peux pas parler avec ce qu'on appelle la kippa sruga. » La kippa sruga, c'est-à-dire la kippa tricotée comme celle-ci, qui est toujours assimilée en Israël, à tort ou à raison, au Gouchimouni. Et considérant que le sionisme religieux étant une forme de fascisme.
Ça, j'avais bien compris l'autre soir.
Je dois dire une chose, c'est que d'abord, Élie n'est pas là, ça m'ennuie un petit peu de parler d'Élie sans qu'il soit là. Je l'ai cité en tant que penseur, mais non en tant que.
Oui, mais c'est enregistré ici.
Oui, voilà. Mais je voudrais dire la chose suivante. Il y a effectivement une relation aujourd'hui entre Élie et le Rav Shach pour la raison suivante, comme le disait entendre Manitou maintenant, c'est que effectivement nous avons affaire à, d'une certaine façon, à un certain retrait par rapport au sionisme existant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a en même temps un certain retour au sionisme, à d'autres formes de sionisme, et qui nécessite, dans un premier temps, un certain rejet. Ils sont obligés de se rejeter eux-mêmes, je parle des Bengales pour l'instant, de se rejeter eux-mêmes, de se refuser eux-mêmes, de refuser leur passé proche pour retrouver leur patrimoine, n'est-ce pas ? Et ceci ne peut exister que dans une recherche de l'orthodoxie. Et je dois vous dire que je ne serais pas, d'ailleurs ça n'a rien d'étonnant, le mouvement de Chazara Bitshuva, le mouvement de retour au judaïsme en Israël, est alimenté en grande partie par des gens provenant de ces milieux. Or, vous savez que le mouvement de Chazara Bitshuva en Israël, le mouvement de retour au judaïsme, est associé la plupart du temps à un antisionisme virulent. Et en cela, nous avons un problème, et c'est la raison pour laquelle Élie ne peut pas trouver de langage avec les sionistes du monde religieux, qui, eux, finalement, procèdent justement de cette continuité. Il n'y a pas de rupture. Et là, et finalement toute la problématique. Mais je pense que ça ne pourra jamais aller très loin dans la mesure.
Et je dirais dans la vie.
Manitou est plus sceptique que moi. Je suis optimiste et je crois profondément que le sionisme existant dans ces mouvements est suffisamment fort. A été suffisamment créatif malgré tout pour créer un certain frein et obliger finalement ces différentes formes de judaïsme à trouver un langage commun.
Je crois que dans une dernière phrase, ça a été beaucoup mieux éclairci à la suite de la question de monsieur, mais puisque j'en ai parlé personnellement avec Élie Bengal, je peux me permettre d'en parler en public. Je serais d'un avis un petit peu différent de ton optimisme de connivence, si j'ose dire, avec Élie Bengal. Connivence, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, tu es certainement plus familier avec les nuances de sa pensée que nous qui l'écoutons un peu à un niveau plus public. Alors, je voudrais un peu schématiser, axiomatiser, si j'ose dire, rendre un peu plus abstrait ce que tu viens de dire, peut-être aussi pour l'éclairer pour moi-même. Et tu nous as décrit trois points très importants. C'est-à-dire un mouvement comme le MAPAM que tu as décrit, les milieux du MAPAM que tu as décrit, avec une première étape de rejet du judaïsme.
C'est clair. Et puis, devant le vacuum que cela représentait pour la deuxième, troisième génération des pionniers, dans ce milieu-là, il y a une volonté de revenir au judaïsme. Mais comme le sionisme de la première époque se définissait par le refus du judaïsme, on ne veut donc surtout pas chercher ce judaïsme chez des sionistes. Est-ce que cette dialectique est Elle correspond
absolument.
Au fait. Et je pense personnellement que cette, je cherche un mot, ce lien, disons, entre ces milieux du MAPAM, fournisseur de Baalei Teshuva, et Mea Shearim, je crois que ça dépasse même Dembrak, l'inspiration de ces Mea Shearim, est très dangereuse pour l'avenir de l'État d'Israël. Et parce que, pour le peu que je connaisse de cette idéologie des milieux du Rav Shach, leur anti-sionisme est sincère. J'ai employé un mot noble, Ken. Et il ne peut pas y avoir de non-dit implicite entre la conviction du sionisme sincère de Liebengal et l'anti-sionisme sincère du Rav Shach. Et qui finalement est l'espèce d'épouvantail qui va faire les frais, c'est l'imagerie fasciste du gauchémonisme. En réalité, il s'agit du Mizrahi, c'est-à-dire du sionisme religieux. La dialectique que j'essaye de d'exprimer de façon abstraite est finalement très simple. Étant donné que le sionisme du MAPAM était anti-judaïsme, sa recherche du judaïsme ne peut pas se faire dans un judaïsme religieux. Et par conséquent, le judaïsme religieux pour Mea Shearim et le MAPAM est dangereux. Et ça peut être dit encore de 70 manières différentes, mais l'idée est la même. Est-ce que c'est clair?
C'est clair. Je voudrais cependant rajouter un point, et peut-être à l'aide d'un dicton chassidique que citait Rabbi Aaron de Karlin, qui disait « Quand on veut sortir quelqu'un de la boue, on s'y plonge. » Et à la suite de quoi la relation qui s'établit aujourd'hui, cette connexion qui s'établit entre l'ultra-orthodoxie et cette gauche socialiste, va éclabousser tout le monde. À savoir qu'on ne peut pas... C'est quelque chose finalement de tout nouveau de voir ces gens de l'Agudat Israël. Vous savez, l'Agudat Israël, c'était un parti en Pologne qui a très bien vécu, qui avait des députés à la Sejm, c'est-à-dire au Parlement polonais, et qui essayait de tirer le maximum du gouvernement polonais. D'ailleurs, les Polonais les adoraient par rapport au reste des Juifs. Enfin, à les adorer entre guillemets, bien entendu. Mais tout de même, ils avaient beaucoup plus de facilité que les autres. Ils se sont comportés en Israël pendant près de 40 ans de la même façon, c'est-à-dire l'État juif, on n'en veut pas, mais on vient avec et on essaye d'en tirer le maximum. Et ces choses-là ont un peu changé, y compris chez le Rav Shach, où il y a des tentatives, par exemple, ces guerres pour fermer les cinémas, le Shabbat, ces guerres pour empêcher la vente de porc, etc. Ce sont des marques d'une certaine volonté d'imposer à Israël la halakha. Et en cela, il y a un intérêt pour cette société dite laïque qu'ils n'avaient pas auparavant. Ça ne les intéressait pas. Et je crois qu'en cela, ils font un pas. Il est vrai que chez le Rav Shach, c'est peut-être moins marqué que chez les chassidim de l'Agouda. Et chez les chassidim de Gour.
Les chassidim, c'est autre chose. D'ailleurs, tu sais à quel point le Rav Shach aime les sadiques.
Absolument.
Entre guillemets, inversé.
Mais il y a une certaine démarche, tout de même, qui est toute récente, qui est toute nouvelle.
Je continue à être assez réservé. Je crois que tu as désigné là un phénomène nouveau, important, et moi j'ajoute grave, qui est certainement explosif pour l'avenir de l'État d'Israël en tant qu'État, de la société israélienne en tant que société israélienne, dans le rêve même du sionisme MAPAM originel, différent que le sionisme des partis socialistes, tu as dit modéré, mais enfin disons centraux. Et il faudrait reprendre cette analyse. Je vous donne une espèce de réaction d'équation personnelle, ayant été très lié à ces deux milieux, entre autres. Vous avez peut-être lu dans l'Arche, un des derniers numéros de l'Arche, un reportage sur cette espèce d'intervention aussi dans la violence des partis de type Agouda ou Chasse. Chasse, c'est finalement l'Agouda Sfarad. Mm-hmm. Et en particulier à propos des affaires du Shabbat que tu viens de citer, avant les événements des territoires, comme on dit en langage journalistique. Et puis, Salomon Malka, qui était le journaliste de l'Arche, qui m'a interviewé à l'époque, a retenu une phrase qu'il a formulée à sa manière, mais l'essentiel y est. et ça a été imprimé dans l'Arche, alors je peux la citer. Et dans la conversation, elle a comparé un peu cette attitude d'impérialisme, de violence, de l'ultra-orthodoxie dans la rue juive, enfin dans la rue israélienne, au khoménisme. J'ai réagi immédiatement en disant, c'est une comparaison choquante, parce qu'il s'agit d'hommes, enfin de personnes humaines, il y a aussi des femmes, qui ne sont pas violents, alors que les khoménistes sont des violents. Et ils ne feraient pas de mal à une mouche. Mais ils ont bien décidé d'assassiner l'État d'Israël. Et les Bengales le savent. Seulement, je crois qu'il y a un mécanisme psychologique profond que j'ai essayé de décrire, ça pourrait être décrit autrement, mais je n'en ai parlé dans ces termes, et tu l'as bien exposé. Il s'agissait d'un sionisme, je ne veux pas dire anti-juif, ce n'est pas le mot, mais il n'y a pas de mot pour ça, contre le judaïsme traditionnel, en rupture avec le judaïsme traditionnel. Il y a une exigence de retrouver ces contenus juifs, alors il ne faut surtout pas aller les chercher chez des sionistes religieux. Alors on va les chercher chez les ennemis du sionisme. Une dialectique kafkaïenne peut-être, mais à l'escalier, il faut avoir les yeux ouverts. Je ne crois pas qu'on doit être manichéen. Rien n'est blanc ou noir. Enfin, en Israël, on dit blanc ou bleu. Mais il y a aussi des motivations spirituelles authentiques dans cette volonté qu'il y ait plus de Shabbat dans les lois municipales, qu'il y ait plus de kashrout dans les lois parlementaires. Mais il y a certainement, à mon sens, un problème d'ordre sociologique pur et simple. Il s'agit de conquérir des quartiers nouveaux à cause de la poussée démographique orthodoxe. Enfin, haredite. Il faut avoir les yeux ouverts. C'est un mouvement de subversion contre l'État, sous couvert de motivation de Shulchan Aruch. En tout cas, ça ne trompe pas un Israélien. C'est clair. Alors, c'est pourquoi je dis que ce lien idéologique entre des groupes type Elie Bengal et le Rav Shach est éminemment suspecte. Je suis très heureux de ton optimisme, mais il faut percevoir le problème plus général. Bien, donnez la parole à la salle. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
Oui, mademoiselle.
Et c'est un peu ce que vous aviez expliqué, si je me permets de rapporter vos paroles, la folie des orthodoxes de 2000 ans. Et je pense que votre adjectif dangereux dans cette association entre ces deux mouvements, que j'appellerais violents, parce qu'ils refusent, comme on disait hier soir, ils veulent chacun... remplacer, ils veulent rivaliser avec une identité, ils cherchent aussi leur identité hébreu qu'ils ont perdue, je pense qu'ils la cherchent, et je pense que cette confrontation entre ces deux tendances est une confrontation sincère, qu'elle ne peut qu'aboutir à la recherche d'un vrai hébreu, et que peut-être, quand vous dites dangereux pour peut-être un pouvoir en place, un pouvoir qui se veut être un pouvoir authentique, sioniste religieux, à qui passe Rougoff, mais peut-être que ce n'est pas nous, le pouvoir, les hébreux authentiques, c'est peut-être ce qui sortira de leur confrontation, qui sait.
Et il faut le vivre là où ça se passe, pour se rendre compte. Oui. Et je ne peux pas vous répondre autrement.
Mais à l'époque du deuxième temple, on sait qu'il y avait des Prouchim et des Tzadokim, et il semble que, disons, d'après certains historiens, d'après le roi Esvaron notamment, disons, dans l'esprit des Tzadokim, des Sadducéens, la religion c'était le moyen et l'État c'était le but. Et dans l'esprit des Prouchim, des pharisiens, c'était plutôt le contraire, c'est-à-dire que l'État c'était un moyen et la religion c'était un but. Et on s'est aperçu que les Tzadokim, qui étaient donc des grands patriotes à l'époque où l'armée était puissante, à l'époque des Maccabées, sont devenus ensuite, se sont très bien arrangés avec les Grecs et avec les Romains, et puis après la destruction du deuxième temple, sont disparus de la scène de l'histoire. Par contre, les Prouchim, eux, ont intéressé le judaïsme rabbinique. n'y a-t-il pas certaines analogies dans la société israélienne actuelle avec ces courants de l'époque de Chénie?
Pour essayer de traduire cela d'une manière moderne, faudrait-il dire que le Gush Emunim ou le Mizrahi, enfin les sionistes religieux, sont des fous de l'État et par conséquent ce sionisme modéré représenterait ceux qui voient dans l'État un moyen. Je ne sais pas si on peut faire cette analogie. En général, je refuse toute analogie historique sur le plan méthodologique. Un historien ne peut pas se permettre de comparer des événements aussi éloignés dans le temps et répondant à des mentalités tellement différentes. Je ne suis pas du tout sûr que le Gush Emunim et le Mizrahi voient dans l'État une finalité. C'est plutôt un clic, un instrument, un ustensile qui permettrait de créer quelque chose. Et je pense qu'en cela, ils ne sont guère différents des gens aujourd'hui, actuellement, de ce sionisme modéré qui aussi a là changé d'optique, alors que l'État constituait une finalité dans l'optique du 19e siècle. Aujourd'hui, l'État n'est devenu qu'un moyen pour créer une société. Je crois qu'ici, il y a convergence de vues entre ces diverses tendances.
C'est-à-dire, si je peux me permettre d'ajouter un terme dans le vocabulaire que vous avez employé, je crois que personne en Israël, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ne voit dans l'État cette idole sadducéenne que vous désignez. Il s'agit de la nation. Pour tout le monde, l'État, c'est un instrument. Et alors la division se fait concernant la prééminence de la nation comme objectif. Or, c'est là que le vrai problème. Et là, il n'y a pas de doute que pour le Mizrahi, comme pour le sionisme classique, c'est la nation qui est l'objectif. Les sionistes religieux la définissant comme nation de la Torah. Mais ils sont dans le même camp que les sionistes pour qui c'est la nation, pas l'État. Sauf des fonctionnaires qui vivent de l'État, quelques-uns, mais ça fait pas un parti, personne ne prend l'État au sérieux. Quand on vit en Israël, on se rend compte qu'on joue à l'État. C'est un fantôme, c'est un fantasme de dire l'idole de l'État. Je ne crois pas qu'il y ait des sadducéens de ce genre en Israël aujourd'hui. Ça n'existe pas. Mais la distinction est bien là. Par exemple, en schématisant, puisqu'on emploie un vocabulaire occidental, je dirais que dans cette recherche du groupe des Liebengal, tu le définirais mieux que moi sociologiquement, que la position de l'Agouda ou du Chas, c'est la religion comme objectif et pas la nation.
D'un point de vue sociologique.
Alors que les sionistes classiques, et en particulier le groupe des sionistes religieux, c'est la nation qui est l'objectif. Et pour les sionistes religieux, la nation selon la Torah. Mais pas l'État. L'État, personne n'y pense. Est-ce que c'est clair ce que je dis?
Dans tout cela, où placez-vous Shlomo Bar Shav?
À qui la question s'adresse?
Je dirais plus. Je poserai la question qui est-ce? Tout simplement parce que Shlomo Bar Shav est un organisme qu'on retrouve au cours de certaines manifestations, qui est un mouvement extrêmement disparate, qui n'est pas un mouvement d'ailleurs, qui est plutôt une réprobation, une réfutation, une critique, mais qui n'exerce pas un rôle quotidien dans l'état d'Israël à l'heure actuelle. Alors je ne crois pas qu'on puisse placer Shalom Arshav exactement dans ce contexte que nous avons, dans un contexte idéologique. Il ne s'agit pas ici d'idéologie, il s'agit de coup par coup. Et ce qui diffère profondément et du fait Mapam et du fait sioniste religieux et bien sûr de la Goudat Israël. Si tu veux...
Non, je suis grosso modo d'accord avec cela. Et quoi qu'il me semble que c'est en train de prendre une force politique que cela n'avait peut-être pas jusqu'à la guerre du Liban. À partir de la guerre du Liban, c'est en train de prendre une sorte de pression politique. Et une excellente analyse dans un des magazines en France à ce sujet, je ne me souviens plus lequel, il est évident que dans la problématique actuelle, Shalom Arshav représente une force politique beaucoup plus qu'un mouvement de contestataires. Bien que ce ne soit pas encore un parti politique, c'est évident. Mais je crois qu'il faudrait, par rapport au sujet général que tu as indiqué, je voudrais résumer en deux points.